Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons donc notre progression dans les personnages bibliques. Vous savez que c'est notre fil conducteur pour les depuis quelques mois. Et donc j'avais commencé avec pour ma part avec David. J'ai déjà prêché deux fois sur ce roi d'Israël. La première fois sur l'épisode de Goliath, la deuxième fois sur les souffrances, les épreuves que David a vécues avec son fils Absalom. Et je continue donc pour la troisième fois et dernière fois donc sur David, en vous parlant de finalement de son héritage, de ce qu'il a transmis, des projets que David a portés pendant son règne et comment il les a transmis à Salomon et puis même au-delà. Donc vous savez que en ce moment on est en période d'élection, beaucoup de promesses, de projets ont été proposés à la France. On voit aussi même dans l'Église que des projets se réalisent. Daniel vient de partir avec Marie-Ève, la famille Coronès va bientôt nous quitter pour s'engager dans le projet qu'ils ont eu à cœur de mener à bien au Canada. Donc ces projets nous concernent. Nous-mêmes, nous faisons des projets et on va voir à travers l'expérience de David la façon dont Dieu se sert de ces projets. On va voir ça à travers trois passages que je vais lire dans les chroniques. En fait, c'est les événements que je vais partager avec vous. On les retrouve à deux endroits. Ça fait partie des épisodes de l'histoire du salut qui sont relatés deux fois dans la Bible. Là, une fois dans Samuel et une fois dans les chroniques. Là, je choisis les chroniques et il faut savoir que le chroniste, puisqu'on ne sait pas, qui c'est en fait, hein, qui a écrit ces livres. Ils ont été écrits probablement après l'exil, donc après le retour du peuple en Israël, après l'exil babylonien. Et le chroniste avait pour objectif de montrer la continuité dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la relation de Dieu avec les hommes et avec Israël en particulier. Et c'était ça son objectif. Et donc il va relater les événements qu'on va lire en gommant certaines parties. Par exemple, il va très peu parler des problèmes que David a rencontrés, parce que l'objectif du chroniste, c'était de montrer que David était le roi choisi par l'Éternel, béni, et sur lequel l'Éternel allait s'appuyer pour commencer en fait l'instauration du culte et le grand objectif du retour de l'exil, c'était le recommencement du culte rendu à Dieu. Et c'est ça l'objectif du chroniste. Et alors je vais lire dans ces chapitres. Et je vais commencer par un premier projet qui a tenu à cœur à David, et on trouve ça donc au chapitre 13. Alors je vais lire pas mal ce matin, donc je vais sauter certains passages pour aller un peu plus vite. Donc ça se trouve donc 1 Chronique chapitre 13. David tint conseil avec les chefs commandant des milliers, des centaines, ainsi qu'avec les autres notables, puis il s'adressa à toute l'assemblée d'Israël et leur dit: si vous le jugez bon, et si cela est dans le plan de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messages à tous nos compatriotes qui restent encore dans toutes les régions d'Israël, ainsi qu'aux prêtres et aux lévites dans leurs villes de résidence, pour qu'ils nous rejoignent. Puis, nous ramènerons auprès de nous le coffre de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas préoccupés d'aller le chercher sous le règne de Saül. Toute l'assemblée trouva cette proposition judicieuse et l'on déclara qu'il fallait la suivre. David rassembla donc tout Israël, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Emohamat, pour faire venir le coffre de Dieu de Kiriath Yéraïm. David, avec tout Israël, se rendit à Baala, à Kiriath Yéraïm, dans le territoire de Juda, pour ramener le coffre de Dieu. l'Éternel qui siège entre les chérubins et sur lequel le nom par excellence a été invoqué. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf après l'avoir pris de la maison d'Aminadab, Uzza, et Uzza et Yao conduisaient le chariot. Donc vous connaissez cette histoire, hein, c'est pas la première fois qu'on la lit, vous savez ce qui va se passer. À un moment donné, il va y avoir un chaos sur la route. Uzza va essayer de retenir le coffre et le texte nous dit que Dieu le frappa à cet endroit-là parce qu'il avait touché le coffre et qu'il n'avait pas à le faire. Et donc Uzza meurt. Et le texte nous dit, David s'irrita parce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uzza. Et il appela ce lieu Peretz Uzza, brèche d'Uzza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de Dieu et il se demanda, comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi ? Il ne transporta donc pas le coffre de Dieu dans la cité de David, mais il le fit déposer dans la maison d'Obed-Edom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois, et l'Éternel bénit la famille d'Obed-Edom et tous les siens. Le projet de David, c'était un projet, un beau projet. L'arche de Dieu avait vécu, donc il y a eu toute une pérégrination, elle avait été capturée par les Philistins, reprise, et Saul s'en était, le texte nous dit, pas préoccupé. Et David, dont la relation à Dieu est au cœur de sa vie, David a le projet de la faire revenir au cœur de sa cité, au cœur de la capitale du royaume d'Israël. Ce projet-là, David a même à cœur que tout le peuple le partage. Et ce texte met en avant un processus quasi démocratique où il va convoquer les différents notables, les responsables, et va leur demander leur avis. Et tout le monde va dire oui, c'est une bonne idée. Et tout le peuple va se réunir pour transporter l'arche. Et là, on voit que le projet de David, le projet même du peuple, subit un coup d'arrêt brutal, alors qu'ils avaient mis l'arche sur un chariot neuf. Alors, c'est pas clair pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette façon de faire, mais peut-être parce qu'ils voyaient ça comme avec plus de dignité que de le porter. Mais cette façon-là ne plaît pas à Dieu et la réaction de Dieu est brutale. Un homme meurt. Et la conséquence de ça, c'est que David s'irrite et David prend peur. Les deux réactions qui vont ensemble, son projet s'arrête et le texte nous dit que le projet est arrêté pendant 3 mois. Ce projet qui était à la gloire de Dieu, qui était de conduire aussi le peuple, de le conduire à Dieu, de partager sa foi, eh bien ce projet est arrêté parce que David et le peuple ont voulu agir à leur façon, à leur convenance. Et Dieu va se révéler. Il va se révéler dans ce projet-là. Il va révéler sa sainteté. Il va révéler que on ne peut pas le traiter sans prendre en compte le fait que Dieu est différent de notre façon de le comprendre, que ses priorités sont pas les mêmes que les nôtres, et Dieu va révéler qu'il est saint et que l'arche, que le coffre d'alliance ne peut pas être manipulé en dehors de ses prescriptions et de ce qu'il a dit. Et donc pendant 3 mois, le projet s'arrête, et le texte nous dit que Dieu va bénir celui qui a reçu le coffre d'alliance chez lui. Alors la peur de David s'estompe, et il reprend son projet. Le texte nous le précise, on peut lire ça au chapitre 15, donc il y a un chapitre entre les deux, où il y a encore un conflit entre David et les Philistins. Donc au chapitre 15, on reprend. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il déclara. Seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qu'il avait préparé. Donc il réunit tout le monde. Et il va dire ensuite aux Lévites, là je lis au verset 12, Vous, les chefs des groupes familiaux des Lévites, purifiez-vous, vous et tous les membres de vos familles, pour être en mesure de porter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés, selon la loi, de ce qui le concerne. David reprend son projet, mais cette fois-ci, il le reprend selon les termes que l'Éternel a fixés. Et il décide de se soumettre à la loi de Dieu. On lit au verset 25, toujours du chapitre 15. Alors David et les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'alliance et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. Avec l'aide de l'Éternel, les Lévites portaient le coffre. C'est peut-être pour ça que Dieu voulait que ce coffre soit porté à dos d'homme, pour montrer la dépendance de ceux qui portent ce symbole de l'alliance, de leur dépendance à Dieu. Et donc le projet là arrive à son terme. Hein, le texte nous parle des grandes réjouissances qui accompagne l'arrivée du coffre à Jérusalem. Hein, vous connaissez ce passage où il est dit que David dansait de toutes ses forces devant le coffre, habillé de la même façon que les prêtres, et où on voit David qui prend ce rôle de roi prêtre, hein, à la fois de roi, à la fois de prêtre, qui sera pleinement incarné par le Christ. Premier projet, on voit un peu compliqué à mettre en œuvre, où Dieu se révèle comme étant différent de ce que David avait prévu. Deuxième projet, un peu plus loin, au chapitre 21, toujours des Chroniques, le texte, donc je lis à partir du verset 1. « Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le recensement d'Israël. Alors David ordonna à Joab et aux chefs du peuple, « Allez recenser les Israélites aptes au service militaire depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis revenez me faire votre rapport pour que je sache quel en est le nombre. » Joab dit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous déjà aujourd'hui sujets de mon Seigneur? Pourquoi alors mon Seigneur ordonne-t-il pareille chose? Pourquoi chargerait-il Israël d'une faute ?» Mais le roi maintint l'ordre donné à Joab, et Joab se mit en route et parcourut Israël. Puis il regagna Jérusalem, Joab communiqua à David le résultat du recensement du peuple, apte au service militaire. L'ensemble d'Israël comptait 1 100 000 hommes, aptes à porter les armes, et en Juda 470 000. Un peu plus loin, verset 7, « Cet acte déplut à Dieu, et il sévit contre Israël. » David dit à Dieu, « J'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » L'Éternel parla à Gad, le prophète attaché à la cour de David, et en ces termes, « Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel, je te propose 3 châtiments, choisis l'un d'eux, je te l'infligerai. » Gad se rendit donc chez David et lui dit, « Voilà ce que déclare l'Éternel, il te faut choisir entre 3 années de famine ou 3 mois de défaite devant tes ennemis, pendant lesquels leur épée causera des ravages dans tes rangs, ou 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste, et où l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc maintenant et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans un grand désarroi. Ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc saisir une épidémie de peste en Israël, et 70 000 Israélites moururent. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la ravager, mais comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda. Alors il ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange destructeur, « Cela suffit maintenant, retire ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire d'Oran le Yébousien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre le ciel et la terre, son épée dégainée à la main brandie sur Jérusalem. Aussitôt, David et les responsables, revêtus d'habits de toile de sac, tombèrent sur leur face. David pria Dieu en disant, « C'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple. C'est moi seul qui ai péché. C'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal? Éternel, mon Dieu, frappe-moi donc plutôt ainsi que ma famille, mais que ce fléau ne s'abatte pas sur le peuple. » Le recensement. David ordonne ce recensement militaire. Et le texte nous dit que cela déplut à l'Éternel, qui vit là une faute très grave. Le texte ne dit pas pourquoi ce recensement est une faute. Hein. Des recensements militaires, il y en a eu avant, plusieurs fois. Mais cette fois-là, c'est une faute très grave devant Dieu. Et le texte donne des indications sur le pourquoi ce recensement était une faute. Le texte nous précise qu'à ce moment de la vie de David, de l'histoire d'Israël, pour la première fois, le territoire soumis à l'autorité du roi eh bien recouvré les territoires promis par Dieu à Abraham en Genèse 15. À cette époque-là, donc, Dieu avait promis à Abraham de lui donner le territoire compris entre l'Euphrate et le Sinaï. Donc tout ce grand Israël, hein, qui encore maintenant fait partie de l'espoir d'une partie des Israélites qui habitent là-bas. Ce grand Israël, cette terre promise par Dieu à Abraham, cette promesse était accomplie pour ce court laps de temps dans l'histoire de ce peuple. La promesse était accomplie. Et pourtant, David, lui, décide un nouveau recensement militaire. Un recensement militaire qui a pour objectif, comme à chaque fois, de lancer une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne de guerre, de conquête. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir à ce préparatif de nouvelles conquêtes. David fait comme les rois ses voisins qui guerroient plus ou moins en permanence pour essayer de conquérir de nouveaux territoires. Hein. Parfois, ces rois ont un succès fulgurant. On pense aux Assyriens, à Nebuchadnezzar, à Alexandre le Grand qui vont conquérir des empires immenses, hein. Empires qui vont généralement s'écrouler assez vite au moment où leur taille dépasse les capacités d'union et d'unité que peut avoir une construction humaine. Mais le plan de Dieu, c'est pas ça. Le plan de Dieu pour Israël, c'est pas un empire. Dieu n'a pas prévu de se manifester au monde par la puissance. Il n'a pas choisi Nebuchadnezzar. Il n'a pas choisi Alexandre le Grand. Il n'a pas choisi Napoléon. Il n'a pas choisi ces grands conquérants pour manifester sa gloire et sa puissance. Il a choisi un peuple de nomades, et il leur a promis une terre délimitée. Et le projet de Dieu pour ce peuple, c'est pas la puissance, c'est la fidélité. Le projet de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est de se construire, de se créer un peuple qui lui soit fidèle et qui l'adore en le reconnaissant tel qu'il est. C'est ça le projet de Dieu pour Israël. Et David, en choisissant d'aller au-delà de cette promesse, il rompt l'alliance. Il rompt l'alliance que l'Éternel avait faite avec Abraham. Il rompt le plan que Dieu avait mis en place. Et la conséquence, on le voit, est terrible. C'est le peuple qui en supporte la conséquence. 70 000 hommes vont mourir dans ce projet de David. Ce projet qui, contrairement au premier, n'était pas basé sur l'amour de Dieu, sur la volonté de le glorifier, mais sur son propre orgueil, sa propre volonté de puissance. Pendant tout le recensement, David ne va pas prendre conscience de cette fosse. On sait que le recensement a duré à peu près une dizaine de mois. Donc pendant ces 10 mois, David va persévérer dans cette volonté, malgré le fait que Joab, son général en chef, va le prévenir. C'est toujours étonnant de voir ce Joab dont on sait qu'il est un homme violent, un meurtrier qui va éliminer violemment ses adversaires. Et Joab, qui pourtant, assez souvent, finalement, va prévenir David quand il s'éloigne de la volonté de Dieu. Et malgré les avertissements, David va persévérer et finalement se rendre compte à la fin de la faute qu'il a commise. Il va essayer va demander pardon à Dieu pour cette faute, mais le châtiment va malgré tout s'abattre sur le peuple et sur Israël, où Dieu va encore une fois se révéler dans encore une fois dans sa sainteté, dans sa volonté de mettre à part un peuple qui le serve, qui va se révéler aussi dans sa grâce. Le texte nous dit que David choisit de se reposer sur la grâce de Dieu plutôt que sur la violence des hommes, et il va se reposer sur la miséricorde de Dieu, et le texte nous dit qu'il a eu raison de le faire, puisque l'Éternel va se repentir. Donc au lieu d'appliquer le châtiment pendant 3 jours, comme c'était indiqué, il va se repentir et arrêter le châtiment au bout d'une journée. Donc le texte nous parle de ce moment où le châtiment s'arrête, où il est manifesté par cet ange avec une épée au-dessus de Jérusalem, à un endroit bien particulier. Donc cette ère de Ornan, le Yébousien, et le texte va nous expliquer que David va aller à cet endroit-là pour sacrifier à l'Éternel, pour manifester sa repentance et faire expiation de sa faute, pour couvrir le péché qu'il a commis. Et donc il va aller à cet endroit-là, demander à Ornan de lui vendre cet endroit. Ornan va lui proposer de lui donner les animaux pour le sacrifice, et David va dire non. Ça, on le lit au verset 24. Le roi David lui déclara: « Non, je veux te l'acheter, te le payer à sa pleine valeur, je n'apporterai pas des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. » Et donc il va acheter cet endroit, et c'est à cet endroit que David va choisir d'édifier le temple. Donc on arrive là au troisième projet de David, donc après avoir vu le déplacement du coffre d'alliance, après avoir vu donc ce recensement, ce projet à sa propre gloire. David arrive donc à ce grand projet de construction du temple. Paul a parlé ce matin du temple, hein, dans ce passage d'Ésaïe, où on voit que ce grand projet du temple, ce lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, que ce grand projet court à travers et parallèle à l'histoire du salut, et trouve son accomplissement dans le fait que le Christ construit son temple en nous. Mais à ce moment-là, donc le temple reste à être construit, à être manifesté, donc de passer de la tente de la rencontre à un lieu où même les païens, ou même les extérieurs à Israël pourront venir rencontrer Dieu. C'est ça la grande promesse du temple, un lieu où les hommes pourront rencontrer Dieu, demander pardon et recevoir la présence et le pardon de Dieu. Donc on peut lire on va revenir un tout petit peu en arrière, parce que le temple est mentionné dans un chapitre un peu avant, qui se trouve donc juste après d'ailleurs l'arrivée de l'arche à Jérusalem. Et donc on lit ça au chapitre 17. Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan: « Qu'en penses-tu ? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'Alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. » Satan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, jusqu'à ce jour-ci. Au contraire, j'étais dans le tabernacle, allant d'un emplacement à l'autre. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné tout Israël, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et qu'il ne soit plus inquiété et maltraité comme auparavant par les hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple. Je soumettrai tous tes ennemis et enfin je t'annonce que je te bâtirai une dynastie. » Le projet de David, c'est de construire un temple pour l'Éternel. Et ce que je trouve touchant dans ce texte, c'est le cheminement de David. C'est un cheminement où David regarde sa propre vie. On sait par quoi il est passé, par toutes les difficultés, la peur pour sa vie, le combat contre Saül, les combats incessants ensuite contre les ennemis d'Israël. Il a traversé plein de choses terrible et douloureuse, et il arrive à un moment où il est en paix dans son palais à Jérusalem, dans son palais de cèdre, et il regarde sa vie, il voit tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Il regarde ça et il se dit, moi maintenant je suis en sécurité, et l'Éternel, son coffre, le coffre de l'Alliance, lui, il est toujours dans une tente. Pourquoi ne pas construire un temple? Un temple pour l'Éternel, un temple à sa gloire. Et il va demander, donc il demande au prophète Nathan. Et Nathan l'encourage. Il lui dit, vas-y, fais, mets en œuvre tes projets, parce que Dieu est avec toi. C'est un beau projet. C'est un projet, je l'ai déjà dit, ce temple va être une espèce de point d'ancrage, une lumière et en même temps aussi une pierre d'achoppement ensuite pour Israël. Ce sera vraiment central dans la vie du peuple que ce temple. Ça va être vraiment ce qui va les ramener à Jérusalem. Ça va être vraiment leur et pourtant Dieu va lui dire non. Non, ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi, mais je vais établir pour toi une dynastie. Je vais affermir pour toi ton trône et pour tes descendants. Et David va répondre à ce non d'une façon merveilleuse, je trouve. David est le roi. On ne doit pas souvent lui dire non à David. On a déjà vu d'autres occasions où, quand il a voulu quelque chose, eh bien, il l'a obtenu, même quand c'était une mauvaise chose. Et Dieu lui dit non. David aurait pu faire comme pour quand le coffre de l'Alliance, quand Dieu a puni, a frappé Uzza, David s'est irrité, il a eu peur. Eh bien, quand Dieu lui dit non, cette fois-là, David ne se met pas en colère. David ne se met pas en colère, David va au contraire exprimer sa reconnaissance. Il va dire, tu m'as choisi moi. Le texte nous dit que Dieu l'a sorti des pâturages où il était, c'est vrai, il était un berger, le plus jeune de sa famille. Tu m'as sorti moi, tu m'as choisi, tu m'as protégé. Et même en plus, maintenant, tu me promets une dynastie. Tu promets d'affermir le trône pour mes enfants. Et David exprime sa reconnaissance et son adoration à Dieu pour ça. Et il va même aller plus loin encore. Et alors là, je lis ça au chapitre au chapitre 22, donc juste après le passage qu'on a lu tout à l'heure. David ordonna de rassembler, donc là je lis ça au verset 2 du chapitre 22, il ordonna de rassembler tous les étrangers en Israël et leur imposa la tâche d'extraire et de tailler des pierres en vue de la construction du temple de Dieu. Donc là, il commence à préparer le terrain. Verset 5, mon fils Salomon est encore jeune et inexpérimenté, or le temple qu'il s'agit de bâtir à l'Éternel devra être d'une grandeur, d'une splendeur et d'une gloire telle que sa renommée s'étendra sur tous les pays. Je vais donc commencer à faire des préparatifs pour lui. Ainsi, David prépara beaucoup de matériaux de construction avant sa mort. Puis il fit venir son fils Salomon et il ordonna de construire un temple pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui dit, mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. Mais l'Éternel m'a parlé en ces termes. Tu as fait couler beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. À cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, mais il te naîtra un fils qui sera un homme de paix. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis alentour. Il s'appellera Salomon, le pacifique, et durant toute sa vie, j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël. C'est lui qui bâtira un temple en mon honneur. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. Je maintiendrai pour toujours le trône de sa royauté sur Israël. Pas toi, David. Pas toi parce que tu as répandu le sang, parce que tu as été un homme de guerre. David aurait pu, là aussi, se mettre en colère face à cette parole-là. David, il a fait la guerre pour Israël. Il a fait la guerre pour vaincre les ennemis du peuple. Il a fait la guerre avec l'appui de l'Éternel. L'Éternel était avec lui. C'est lui qui l'a fait réussir dans tous ces conflits. Et maintenant, l'Éternel lui dit non, à cause de tout ça, à cause de ces guerres que tu as menées, ce n'est pas toi qui bâtira ce temple que tu as tellement à cœur. Et David, donc, ne reproche pas ça à Dieu. David, à cause de la vie qu'il a menée, eh bien, ne peut pas accomplir son grand projet. Ça ressemble un peu à l'histoire de Moïse. On retrouve un peu cette dimension-là. Hein, quand Moïse ne peut pas franchir le Jourdain pour aller vers la terre promise, là où pour lui aussi ça avait été son projet, son avenir, et cette porte-là lui est fermée à cause du péché, là aussi. On peut même trouver encore un autre parallèle. Quand on pense à tout ce sang versé, à la faute que David porte, moi ça m'a fait penser aussi au Christ. Au Christ qui a porté nos fautes, nos iniquités, qui a été séparé de Dieu à cause de cela, le Christ qui a accepté de porter ses fautes et ses iniquités. Et là, David a accepté de porter la guerre, de porter la mort et le sang pour Israël. Et à cause de cette démarche-là, eh bien, il porte une forme de séparation d'avec Dieu. Mais David a la même attitude que le Christ. David se place en serviteur reconnaissant, et tellement reconnaissant que David ne va pas avoir une attitude de rejet en disant « bon ben, puisque c'est pas moi, débrouille-toi ». Yann nous avait déjà parlé de cette attitude qui consiste à encourager et à participer, même quand on n'est pas à la première place. David va préparer le travail de celui qui accomplira le travail du temple, pour que finalement ça s'appelle le temple de Salomon, et pas le temple de David. Il va préparer le travail, il va s'engager dans ce projet, même en sachant que ce n'est pas lui qui le finalement, on tirera la gloire. David accepte de rentrer dans un projet qui, finalement, va le dépasser de très loin. Puisqu'on l'a vu, l'histoire du temple couvre des centaines d'années, et encore maintenant l'image du temple est une image qui nous construit, nous. Il va accepter de rentrer dans ce projet qui va au-delà de lui. Donc trois projets, des bons, un mauvais. Et dans ces projets, Dieu s'est révélé. Il a montré une facette de qui il était, saint, un Dieu qui pose des limites, un Dieu qui ne se révèle pas dans la puissance, dans la toute-puissance, qui laisse un espace à l'homme pour répondre à son appel. Un Dieu qui malgré la violence de toute cette période, les guerres, les morts, les souffrances, un Dieu qui ne s'incarne pas dans cette violence, mais qui s'incarne dans la paix, qui va choisir un homme de paix pour manifester sa présence dans le monde. À travers ces projets de David, Dieu s'est révélé. Dieu les a utilisés, le bon, le moins bon. Dieu les a utilisés pour faire progresser son alliance. Parce qu'au bout du compte, c'est son alliance qui se révèle à travers ces projets de David. Le coffre de l'alliance, le temple de l'alliance, cette alliance que Dieu veut faire avec les hommes, et David, dans ses projets, va rentrer dans cette grande histoire de l'Alliance. Et ces projets qu'il va porter avec amour. On a vu que c'était ça, la racine des projets que David formait dans son cœur, à part celui du recensement. Mais ces projets-là étaient fondés sur un amour profond pour Dieu et pour ses frères. Parce que son amour pour Dieu se traduit par la volonté de le partager avec son peuple. Et donc David va rentrer dans ce projet d'alliance, dans ce projet où Dieu se forme un peuple qui lui est fidèle, dans un pays qui est en paix, dans un pays en sécurité. Alors pour nous, j'ai envie de dire que le projet de Dieu reste le même. Le projet de Dieu, c'est toujours l'alliance. L'alliance a changé dorénavant. Pour nous, l'alliance, c'est le Christ. L'alliance, c'est le Christ. Et moi, ces textes-là m'encouragent. M'encouragent à faire des projets. À faire des projets, parce que ces textes montrent que Dieu se sert de nos projets. Ça me montre aussi qu'en faisant des projets, je dois rester humble. Humble comme David l'a été, qui a accepté que Dieu change ses projets, change leur direction, que Dieu lui dise non, que Dieu lui montre un autre chemin, que Dieu se révèle différent de ce que David pensait. Et je pense que pour nous, c'est la même chose. Dieu nous demande de former des projets dans notre cœur, comme Daniel a formé un projet de partir. Comme la famille Ossé, par exemple, a formé le projet de partir, comme dans notre église, le projet de Philadelphie s'est mis en place, à des niveaux, bien sûr, différents, mais ce sont des projets que Dieu utilise, que Dieu transforme, des projets qui s'inscrivent dans son alliance de témoigner, de révéler qui il est, à ceux qui nous entourent. Le projet dans lequel nous nous inscrivons est toujours le même. Alors, qu'on puisse être inventif, qu'on puisse être créatif, et que nous puissions rester aussi souples dans sa main. Parce que quand Dieu nous utilise, il nous, il nous transforme. Comme, comme l'argile et le potier, il nous façonne. Alors que nous puissions rester, rester humbles dans, dans sa main et que nous puissions former des projets dans notre cœur qui lui plaisent. Je vous remercie.